faut pas négliger le vérificateur. Faut pas non plus en faire trop. Faut pas l'inviter au resto. Chacun fait son travail. Faut pas oublier aussi que l'inspecteur est conseil. Le premier conseil de l'entreprise, c'est l'inspecteur des impôts.
Bienvenue à On the Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste Debouzy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui nous accompagnent au quotidien. Bonne écoute! La fraude est à l'impôt ce que l'ombre est à l'homme. Pour être inattendu sous la plume de Georges Pompidou, cette opinion semble imprégnée de résignation pour ne pas dire de défaitisme. Et pourtant, depuis que l'impôt existe, l'administration contrôle la déclaration et le recouvrement. Si les entreprises sont depuis longtemps préparées à de tels contrôles, elles sont sûrement moins familières des nouveaux types de contrôles et des nouvelles tendances en la matière. Pour bien s'y préparer, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Lorenz, l'un de mes associés fiscalistes au sein du cabinet. Avant son arrivée en 2005 chez Auguste Debouzy, Philippe avait été associé chez ce qu'on appelle un Big Four. Après s'être frotté au monde de l'entreprise dans le secteur de l'industrie nucléaire. Cette culture d'entreprise donne à Philippe une approche pragmatique et utile quand il doit assister ses clients lors de tels contrôles. Sur un plan plus personnel, Philippe aime la bonne chère, il cuisine lui-même, ainsi que les voitures et les vélos qui vont vite. Sans parler de la musique, pour laquelle il nourrit des goûts vraiment éclectiques, de la musique baroque à Olivier Messiaen, en passant par le métal ou le jazz, on ratisse large. Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Philippe, si on se concentre sur les seules entreprises, quels sont, selon toi, les grands types de contrôles fiscaux dont celles-ci peuvent faire l'objet ?
L'essentiel, c'est des contrôles, ce qu'on appelle les vérifications de comptabilité, qui peuvent être, pour les grandes entreprises, à durée limitée, pour les plus petites, à durée limitée, 3 mois. Et après, évidemment, il y a toute la gamme, il y a toute la gamme des contrôles, et notamment les contrôles inopinés ou les visites domiciliaires.
Dont on reparlera un peu plus tard, Philippe. Depuis 2004, il existe, avec une refonte en 2018, une nouvelle approche de ces contrôles qu'on appelle le L62, le L62 tiré du livre des procédures fiscales, qui est une sorte de plaidé coupable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce L62?
Ce dispositif a été mis en place pour permettre aux entreprises de régulariser leur position, leur situation, et de bénéficier en fait d'une remise sur les intérêts de retard. Bon, alors, soit elle est spontanée, c'est-à-dire que l'entreprise qui spontanément se rend compte qu'il y a une erreur, une anomalie, et elle contacte l'administration, et donc elle rentre dans la procédure avec la remise de 30% sur les intérêts de retard. Soit c'est dans le cadre d'un contrôle fiscal, celui qu'on évoquait tout à l'heure pour les entreprises, la vérification de comptabilité, et c'est l'administration qui offre la possibilité à l'entreprise de se placer dans cette procédure de correction d'erreur, et donc d'avoir la remise.
Quelle est, selon toi, Philippe, la philosophie générale qui sous-tend le L62?
Là, c'était en fait dans le cadre toujours de cette confiance qui devait être restaurée entre l'administration et les entreprises, et donc offrir la possibilité aux entreprises de bénéficier d'une clémence, entre guillemets, de l'administration. Alors, l'inconvénient, c'est qu'évidemment, elle va être forcément plus sévère, entre guillemets, ou plus dure dans le cadre des redressements qui pourraient être, et des pénalités qui pourraient être notifiées. Donc, c'est un peu le revers de la médaille. C'est aussi ce qui a été poursuivi derrière, on va peut-être en parler après, sur la relation de confiance et le partenariat avec l'administration. L'avantage, c'est qu'il y a une vraie collaboration, communication, transparence. L'inconvénient, c'est que si on rentre pas dans les clous, ça peut être la catastrophe.
Dans les sanctions qui font peur, Philippe, il faut évidemment parler de droit pénal, qui est quand même un aspect majeur dans ces contrôles, ou plutôt la menace de poursuite pénale. Là aussi, les choses ont changé depuis une loi de 2018 qui, dans certaines situations, va dessaisir l'administration fiscale de la décision de poursuite pénale au profit du parquet. De quoi parle-t-on précisément ?
Avant 2018, les poursuites pénales ne relevaient que de l'administration fiscale. C'est ce qu'on appelait le verrou de Bercy. Il y avait une commission spéciale qui est la commission des infractions fiscales qui devait rendre un avis, conforme ou pas. Et après, le ministre avait l'autorisation de poursuivre, mais pouvait ne pas poursuivre. À partir d'octobre 2018 et la loi de réforme, eh bien, il y a dans certaines conditions et qui sont assez larges, puisqu'en fait, il suffit d'un redressement fiscal de 100 000 euros en droit et des pénalités de 80% ou 40% en cas de récidive. Récidive, c'est 2 fois dans une période de 6 ans. Eh bien, dans ce cas-là, avec les 100 000 euros de droit, il y a une transmission dite automatique au parquet pour enquête, soit c'est le PNF, soit c'est un parquet autre, mais sur possibilité d'enquête et de poursuite pénale avec peine d'amende et prison potentiellement.
Quel est l'impact pratique de cette réforme pour les entreprises, selon toi ?
Pour l'instant, c'est un peu tôt, si tu veux, pour savoir, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux éléments. Il y a la première, c'est que pour moi, c'est vraiment un bloqueur pour les entreprises, parce qu'en fait, elles se retrouvent très vite, potentiellement, sous le joug d'une condamnation pénale, d'une enquête pénale, parce qu'en fait, plus qu'une condamnation, c'est la durée, en fait, de la procédure qui va rester suspendue et qui pourrait, pour un chef d'entreprise, qui se retrouve avec une transmission automatique, donc sous le coup d'une enquête potentielle, tu peux bien imaginer qu'aucune banque ne viendra le financer en sachant qu'il y a une enquête qui est en cours et potentiellement une condamnation pénale. L'autre côté, c'est que les entreprises vont être beaucoup plus poussées à transiger. C'est-à-dire qu'à trouver un règlement d'ensemble avec l'administration fiscale pour éteindre, en fait, le plus vite possible, l'automaticité, si tu veux, de transmission du dossier. Et donc, c'est accélération des acceptations, même parfois, de certains chefs de redressement, alors même que certains dossiers auraient pu être plaidés et faire du contentieux. Mais comme il y a le danger, en fait, des poursuites, ben, on va transiger. Et d'autre côté, ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu, ils se retrouvent potentiellement avec des difficultés, notamment de financement, mais tout autre. Ça peut être pour des appels d'offres, des marchés publics, etc.
Alors, si on n'est pas dans le seuil, puisque tu évoquais le seuil de 100 000 euros et puis les autres conditions, si on n'est pas dans le seuil, on revient donc aux prérogatives pénales antérieures dont jouissait l'administration et on se retrouve devant la commission des infractions fiscales à laquelle tu faisais allusion. Et là, tu peux nous dire quelques mots rapidement sur ce scénario-là ?
Oui, c'est les cas où on est en dessous, on n'est pas dans le cadre, en fait, on n'est pas dans les 100 000, etc. Mais l'administration estime que malgré cela, les faits font qu'elle elle souhaite poursuivre. Parce qu'il y a vraiment atteinte en fait aux finances de l'État, il y a un comportement qui est déviant, etc. Et donc dans ce cas-là, elle est obligée en fait de passer de nouveau devant cette commission des infractions fiscales, qui va rendre un avis. Et cet avis, comme je le disais tout à l'heure, il va soit confirmer, soit il va donner un avis défavorable. Et en cas d'avis conforme, l'administration après peut choisir de poursuivre ou pas. Et en cas d'avis défavorable, en revanche, le ministre ne pourra pas poursuivre.
Tu évoquais toi-même tout à l'heure la pratique des visites domiciliaires. On pourrait croire que c'est imprégné de bienveillance, comme une visite amicale. Mais en fait, je crois qu'il n'en est rien. Nous parlons ici d'une procédure qui est initiée par une décision du juge des libertés, en fait, et du juge des libertés de la détention, et qui peut être le prélude à un contrôle fiscal. C'est bien cela ?
C'est ça. Quand il y a en fait des éléments qui laissent présumer une fraude, l'administration en fait réunit l'ensemble des éléments dont elle a pu avoir communication via des procédures autres de droit de communication ou contrôle sur pièce sur le dossier que remet le contribuable chaque année avec la déclaration fiscale. Et puis tout autre élément extérieur, droit de communication, c'est chez le banquier, chez autre administration, etc. Au vu de ça, elle présume donc une fraude. Elle ne peut pas lancer en fait une visite domiciliaire comme ça. Elle va voir le juge de la liberté de la détention, qui, sur les éléments rapportés par l'administration, va rédiger une ordonnance, va signer une décision pour autoriser l'administration, dans un cadre déterminé, dans un périmètre donné, sur des faits donnés, pouvoir aller visiter les lieux définis, qui peuvent être plusieurs. Hein. Ça peut être le domicile du contribuable, l'entreprise, une banque. Ça peut être vraiment divers et variés. Et même, on peut, si c'est révélé pendant la visite qu'il faut aller visiter d'autres lieux, le juge doit à ce moment-là être contacté, donner son autorisation pour aller visiter ces lieux. Mais effectivement, comme tu dis, c'est pas forcément amical. Ça commence tôt le matin et ça se termine parfois tard le soir.
Et alors, ton conseil pratique, Philippe, lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une visite domiciliaire ?
Le conseil pratique, c'est pas paniquer déjà. C'est de retenir, dans un premier temps, les inspecteurs, parce qu'ils viennent à plusieurs. Hein. Alors, ils sont assistés d'officiers de police judiciaire. C'est une équipe mixte. Bon, en général, c'est un tiers, deux tiers d'inspecteurs des impôts, un tiers de policiers qui sont armés. Donc, c'est les accueillir correctement, les retenir, entre guillemets, leur dire d'attendre quelques instants pour pouvoir que l'entreprise se prépare, si tu veux, contacter les avocats à ce moment-là pour que nous, on puisse intervenir et organiser au mieux le déroulement de la visite prendre connaissance de l'ordonnance, puisqu'en fait, en fiscalité, l'ordonnance est communiquée, ce qui n'est pas le cas dans les autres types de perquisitions. En visite domiciliaire, l'ordonnance est communiquée. Donc, bien prendre connaissance de l'ordonnance, des conditions de la visite, et pouvoir bien préparer la visite, puisqu'en fait, des postes de travail pourront être vus, des saisies informatiques pourront être opérées. Donc, tout ça, ça s'organise. L'administration est habituée à ça, et je pense qu'il faut organiser une bonne communication fluide, une bonne préparation de la journée pour que ça se passe au mieux. Ça se passe à 95% très bien, hein. Ça se passe toujours très bien. Et surtout, à la fin des opérations de visite, éventuellement faire des réserves pour protéger en fait au mieux les droits du contribuable par la suite et pour faire les recours sur les opérations de visite, puisqu'il y a des recours possibles. Et puis, des appels aussi, pression d'appel sur l'ordonnance qui a été livrée par le juge.
Alors, merci pour ces propos rassurants. J'aimerais quand même qu'on revienne à des sujets peut-être moins stressants. Philippe, c'est la transaction fiscale. Tu en as parlé il y a quelques instants. De quoi parle-t-on ici, en fait? Il y a, ce que j'ai bien compris, tu me corrigeras si je me trompe, il y a les vraies transactions fiscales, puis il y a aussi des transactions qui ne disent pas vraiment leur nom et dans lesquelles le L62 pourrait rentrer, par exemple.
Alors, il y a ce qu'on appelle le règlement d'ensemble, en fait, où là, c'est un accord, en fait, avec l'administration fiscale et le contribuable pour éviter et éteindre le risque de transmission d'un dossier aux autorités pénales. Donc ça, c'est le premier type. Après, il y a les types de transactions en dehors du règlement d'ensemble qui vont être sur des pénalités, sur une remise, sur des remises gracieuses, etc. Et donc celle-là, c'est au bon vouloir et en fonction des compétences. Parce qu'il y a des autorités, si tu veux, avec des niveaux d'autorisation. Donc suivant l'interlocuteur de l'administration, eh bien, on pourra négocier une transaction sur une remise de pénalité. Alors là, ça n'aura pas forcément d'influence sur la transmission de dossier au pénal, mais au moins, on pourra réduire l'addition et donc payer moins cher au final. Et puis après, ce que tu évoquais, c'est le L62. Alors là, on est vraiment dans une procédure de correction, de régularisation avec un déroulé, mais qui est prévu par la loi. Donc là, on est dans un cadre.
Philippe, je voudrais terminer par une dernière question vraiment pratique. Quels seraient les conseils généraux et surtout pratiques que tu donnerais aux entreprises que nous conseillons, que tu conseilles, lorsqu'elles font l'objet d'un contrôle?
Le contrôle classique, que ce soit pour une personne physique ou pour une société, il y a une relation. Il y a un inspecteur qui se déplace. Et je pense que le point clé, c'est d'être déjà courtois, de répondre aux questions, mais pas trop répondre aux questions non plus, de communiquer les documents qui sont demandés. Je pense que c'est très important de bien communiquer, d'être fluide. Et si on n'a pas l'information, expliquer pourquoi on ne l'a pas. En fait, il ne faut pas essayer de cacher ou de montrer qu'on n'a pas ou de faire de mystère. Parce que ça déclenche nécessairement une méfiance, une défiance de la part de l'interlocuteur. Et maintenir ces conversations fluides à chaque déplacement, puisqu'en fait, le contrôle se déroule en plusieurs rendez-vous. Et à chaque fois, il faut être disponible. Faut pas négliger le vérificateur. Faut pas non plus en faire trop. Faut pas l'inviter au resto. Chacun fait son travail. Faut pas oublier aussi que l'inspecteur est conseil. Le premier conseil de l'entreprise, c'est l'inspecteur des impôts. Donc, ils sont là aussi pour conseiller. Il y en a qui le font très bien. Donc, aucun problème. Et ça crée, faut créer, en fait, une certaine confiance. Il faut qu'il soit confortable.
Eh bien, merci beaucoup, Philippe, d'avoir partagé avec nous ton expérience et tes conseils très pratiques, surtout les tout derniers que je retiens au premier chef, pour se préparer et faire face à ces nouvelles tendances dans les contrôles fiscaux diligentés par l'administration fiscale depuis quelques années. Je retiens que, évidemment, la présence d'un conseil fiscal est nécessaire sur le fond et dans ces circonstances, mais je retiens aussi qu'une grande part doit être laissée à la sérénité, au relationnel, à la relation de confiance que tu as si bien défendue il y a quelques instants. Et selon un savant dosage, j'en suis sûr, en fonction de l'impôt visé, des sanctions encourues, du type de procédure suivie, on les a évoquées, et de l'importance du contrôle dont il s'agit. Vous venez d'écouter On the Legal Side, un podcast signé Auguste de Bouzy. Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site www.auguste-6-debouzy.com ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le Son de l'Encre. À bientôt !